Alors, il paraît que c'est la première fois, enfin, dans l'histoire récente, que vous rajoutez une journée. Donc, j'étreigne la solution et la formule. Je ne sais pas si elle sera renouvelée. Je suppose que ça va dépendre comment ça se passe maintenant dans cette dernière session. Je suppose que le week-end a été long pour plusieurs et que ce n'est pas évident de terminer comme ça avec une autre session. Et en même temps, je suis, et je voulais le dire, vraiment reconnaissant de ces moments vécus avec vous, les amitiés qui se sont créés ou forgés rapidement ont été d'un encouragement. Tant de louanges aussi, tout au long de ce week-end, ont été fortifiants. Je suis vraiment reconnaissant d'être des vôtres. Je ne sais pas comment vous allez terminer votre vie, juste pour lancer le message de ce soir. Hein. Et je ne sais pas non plus qu'est-ce que pourrait être la phrase qui définira votre vie. C'est assez effrayant quand on lit les livres historiques de l'Ancien Testament, combien une vie de roi, un roi d'Israël est résumé par une phrase. N'est-ce pas? Quelle serait la phrase qui résumerait votre vie? Je préfère dire votre parce que moi, ça me déprime trop si je dis la nôtre. Voilà. Et je sais que la question semble peut-être incongrue, surtout si vous avez moins de 45 ans. À partir de 45 ans, on devient plus âgé. Mais bon. Surtout si vous êtes jeune, vous vous dites, c'est franchement une question qui n'a pas de sens pour moi. Et je ne suis pas certain. Et en fait, je voudrais vraiment mettre au défi cette supposition que ça n'a pas de sens de se poser cette question, parce que la mort éclaire la vie. Et ce n'est que lorsque l'on a intégré cette notion de la brièveté de la vie sur terre que l'on est capable de vivre dans la plénitude le moment présent qui est devant nous. Et je ne voudrais pas du tout avoir une préoccupation morbide ce soir, pas du tout, du tout, mais plutôt de voir avec l'Ecclésiaste, bien sûr, combien cette perspective que notre temps sur cette terre est court et qui va passer comme une fumée, comme une vapeur, que l'on a l'occasion de prendre des décisions radicales. Il y a très longtemps, au siècle précédent, au millénaire précédent, j'étais en Afrique. Et j'étais en République centrafricaine à un moment où il y avait des mutineries. Et j'étais perdu dans un petit village de Centrafrique et l'ambassade française m'a dit de rester en place. Le lendemain, normalement, nous aurions dû voyager pour revenir sur Bangui. Et l'ambassade française nous a dit surtout de ne pas voyager. Il y avait des coupeurs de route, il y avait des situations un petit peu dangereuses sur le voyage. Et donc, me voici avec des missionnaires en territoire totalement inconnu. Il faut juste vous dire que moi, je suis un urbain par excellence. Il me faut une connexion Internet et je suis heureux, du café le matin, une douche chaque matin. Là, ça va. Là-bas, j'étais vraiment en dehors de mon élément. Là-bas, quand j'avais fait une soirée chez les missionnaires, ils m'avaient dit, en sortant de leur maison, ils m'avaient dit « Fais attention aux serpents ». Et je m'étais dit « Ça, c'est marrant. J'ai jamais fait, je suis jamais sorti de chez quelqu'un avec cette exhortation. Attention aux serpents ». Et les Africains, ils étaient explosés de rire parce que j'avais ma petite lampe de poche et j'éclairais chaque centimètre, je mettais un pied là, je mettais... C'est l'urbain français vraiment décalé, quoi. Juste pour vous donner une image. Et bref, je sors de cette maison et puis je me dis, voilà, tout autour de moi, c'était l'obscurité. Un village à côté, c'était des funérailles, et puis des funérailles à l'africaine. Tam-tam, des pleurs, des cris. Et je me suis retrouvé dans ma petite chambre en terre battue et je me suis dit, c'est sûr, c'est ma dernière nuit sur terre. J'ai beaucoup d'imagination. Alors, il y avait encore un peu de pile dans ma lampe, donc j'ai écrit un mot à ma femme pour le cas où on retrouverait mon corps criblé de balles. Puis aussi avec chacun de mes enfants que je n'allais pas voir grandir. Et je me suis rendu compte que, enfin, surtout à cette époque, je n'avais pas grand-chose à dire sur ma vie. Moins non plus maintenant, ou du moins maintenant, ça se comble d'autres choses. C'est que je vois la réalité du péché dans mon cœur. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'à la fin d'une vie, et je n'ai jamais été menacé, hein, c'est tout dans ma tête que ça s'est passé, hein, j'ai juste vu trop de films, hein, c'est tout. Mais à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était mon dernier moment sur Terre et je trouvais très très pertinent l'expérience, cette expérience-là. Parce que je me suis dit, il n'y a vraiment pas grand-chose qui reste d'une vie. Ça se mesure à quoi une vie ? Alors, je sais, il y a des grands poètes qui vont dire à l'amour donné, etc. Ouais, tu parles dans la fin d'une vie comme ça, ça ne se mesure pas si facilement comme ça. L'Ecclésiaste, le prédicateur, est un homme qui a gâché beaucoup de sa vie. Salomon n'est pas un héros de la foi, en Hébreux 11. Salomon est un type qui a reçu une sagesse exceptionnelle au début de sa vie et qui ne l'a pas mise en pratique. Comme quoi, on peut avoir beaucoup de choses dans la tête et pas grand-chose dans le cœur encore. Salomon, c'est la personne qui a raté plein de choses pour éviter que nous, on les rate. Au départ, il a commencé sa vie sur Terre avec... sa vie d'adulte avec Cantique des Cantiques, un merveilleux poème d'amour. C'est un livre chaud, je ne pouvais pas le lire quand j'étais avant de me marier. C'était juste trop quoi. Et il raconte la perspective romantique qu'il a sur l'amour. Quelques années plus tard, je pense, il écrit Proverbes, qui, en partie du moins, où il donne des instructions à son fils ou ses fils ou aux jeunes pour qu'ils vivent droitement. Et il brise tous les conseils qu'il a lui-même formulés. À la fin de sa vie, c'est un homme qui a été dévoyé par les idoles, les femmes, qui est un peu un pervers quand même. En fait, pas un peu, qui est carrément un pervers. Il vivait avec 700 femmes et 300 concubines, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais même pas à quoi ça peut ressembler, une vie comme ça. Et à la fin de sa vie, il voudrait instruire les plus jeunes. Et donc, si vous me le permettez, je voudrais plus particulièrement m'adresser à ceux qui sont un petit peu plus jeunes. Et si vous vous dites, oh, ça c'était déjà hier après-midi, alors prenez-le dans un autre sens. Ce que vous pourriez dire à des plus jeunes. Parce que voyez-vous, la vie c'est une question de transmission, et la vie spirituelle et la sagesse est aussi une question de transmission, n'est-ce pas ? Nous sommes appelés, nous qui sommes chrétiens, et à faire des disciples et donc à transmettre, à multiplier des leaders. Je faisais la remarque avec un des frères récemment, enfin ce week-end, que l'Église est un lieu merveilleux où des générations sont ensemble. Il y a peu de place dans la société française et belge, je suppose, où des générations peuvent ensemble vivre dans la joie, échanger des blagues, s'encourager l'un l'autre. Et j'espère qu'il y a dans votre perspective, dans votre cœur, vous qui avez passé le cap de la quarantaine, que vous pouvez maintenant commencer à transmettre un certain nombre de choses. J'imagine que ça fait partie déjà de votre pensée. Chaque année, vous vous dites, Seigneur, quelles sont les deux ou trois personnes pour qui je peux prier, en qui je peux me reproduire ? Le peu de sagesse que j'ai reçu de toi, qu'est-ce que je peux transmettre ? Il y a un film assez saisissant qui s'intitule « Sans plus attendre ». Vous le connaissez ? C'est un film qui traite avec humour d'un sujet solennel. Que feriez-vous s'il vous restait 6 mois à vivre ? Bucket list en anglais. Et c'est assez drôle. Bon, il y a quelques scènes, c'est Hollywood, hein, qui ne sont peut-être pas recommandées à tout le monde. Mais dans l'ensemble, c'est assez drôle et c'est assez bien fait. Et l'exhortation de ce film, c'est un film très hédoniste, hein, qui nous dit, voilà, si vous avez 6 mois encore à vivre, vivez à fond. Et vous savez quoi ? C'est exactement l'exhortation que nous laisse l'Ecclésiaste. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez apportées. Et puis, sinon, je vais lire. De toute façon, je voudrais faire une lecture. On a 2 chapitres à couvrir dans la demi-heure qui me reste, donc je vais mettre le turbo. Et puis, on va essayer de voir quels sont les éléments un peu de conseils que Dieu nous donne, ou que Dieu donne au travers du livre de l'Ecclésiaste qu'il a inspiré. Et quelque part, c'est une exhortation à saisir la vie à bras le corps. À bras le corps! On n'a qu'une vie, une seule, pour faire la différence. C'est comme si on n'avait qu'une cartouche. L'image d'une cartouche, elle est saisissante. J'ai dit, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, on a eu, on a 3 enfants, hein, mais on a eu 2 mariages en 6 mois, ce qui est terrible. Je suis contre maintenant les mariages. 2 mariages en 6 mois, et le premier de notre fils aîné, c'était en Alaska, parce que sa femme vient d'Alaska, et donc on s'est rendu en Alaska en hiver, moins 20 degrés, bref. Et là, on a rencontré le père de la femme de mon fils, de notre fils, qui était policier et qui a souvent dû combattre les ours. Vous imaginez comme un grand-père, enfin ce sera un grand-père extraordinaire. Oui, je me battais contre les ours, il pourra dire à ses petits-enfants. Et il nous racontait qu'un ours, quand ça charge, c'est pas pour blaguer, quoi. Je veux dire, faut pas le louper. Ce sont des animaux qui sont massifs, qui arrivent sur vous, paraît-il, à 60 km/h pendant pas longtemps. Mais pas longtemps, à 60 km/h, ça va très vite. Ça couvre une distance. Et donc, en tant que policier, parfois, il devait sortir du gros calibre, parce qu'il était appelé dans les saisons où c'était un danger, très régulièrement. Et il devait arriver pour pouvoir protéger la population et parfois abattre un ours. Et il me disait, voilà, quand l'ours charge, il faut sortir son arme, premier conseil, hein, quand il est loin. Et puis ensuite, il faut bien viser son cœur. si on sans trembler. C'est, voilà. Et puis ensuite, il faut attendre qu'il arrive à 10 mètres. Il y a des âmes sensibles ici ? 10 mètres, blanc dans les yeux. Et là, vous tirez et vous n'avez qu'une cartouche. Il m'a dit, quand un ours s'affale de 10 mètres de sa course, il arrive au pied. Au pied, Médor, au pied. Il dit, il faut à peu près une heure pour que l'adrénaline descende. C'était pas dans mes notes, mais je trouve que c'était une illustration intéressante. Parce que dans notre vie, c'est un peu la même chose. On n'a qu'une cartouche, une seule. Après, c'est l'éternité. Et si vous êtes en Christ, l'éternité, c'est extraordinaire. On va se baigner sous le soleil de la grâce toute l'éternité. En attendant, voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Et on va lire de façon fragmentée, je ferai plein de remarques en fait à partir de ce texte. Mais nous lisons à partir de Ecclésiaste 11, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre, et si un arbre tombe, vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. » On s'arrête là. Toute une série d'exhortations que je voudrais préfacer par « Pendant que tu es jeune ». Pendant que tu es jeune. Je m'excuse si jamais je vous prends avec un tutoiement. C'est si vous êtes jeune seulement, je peux me permettre. Sinon, c'est pendant que vous pouvez transmettre à un jeune. Ou bien pendant que vous le pouvez encore. Je vais essayer d'être diplomatique, n'est-ce pas ? Mais je crois que la justification de cette manière d'aborder le texte nous vient du verset 9, où il est dit « Jeune homme, réjouis-toi », etc. C'est une exhortation pour des jeunes. Pendant que tu es jeune, et la première chose que je voudrais souligner, c'est « Sois généreux, sois généreux ». Alors, vous n'avez probablement pas tous fait des hautes études, mais j'ai la conviction que quand on jette du pain à la surface des eaux, il coule. C'était une grande remarque, n'est-ce pas, de la vie. Pourtant, Ecclésiaste dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Qui veut manger du pain qui revient d'un lac? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et je pense que l'idée, c'est de savoir être généreux. Et je le vois par là, c'est une manière poétique de dire, donne du pain même quand tu sais que tu ne le retrouveras pas. Parce que c'est ça l'idée, hein, quand on jette du pain à la surface de l'eau, l'eau va l'absorber. Apprends à être généreux pendant que tu es jeune. Il y a une certaine générosité qui ne peut s'apprendre que pendant qu'on est jeune, parce que en fait, après, quand on est plus jeune, je vous laisserai mettre la barre où vous voulez, quand on est plus jeune, on reste ce que l'on a été. C'est pendant que l'on est jeune que l'on apprend à être généreux. Et dans la perspective, certes un peu égoïste de Salomon, tu sais, si tu donnes ta part à 7 et même à 8, le jour où tu es dans le malheur, tu le retrouveras. C'est vrai qu'on a envie d'aider ceux qui ont été généreux, non ? C'est-à-dire que les gens qui ont été super aimants, encourageants, joyeux, il leur arrive une tuile, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On se dit, pourquoi eux ? On a envie de les prendre dans les bras, on a envie de les secourir, on a envie de les aider. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement donné que quand ils sont dans la difficulté, on a envie de les secourir. C'est un peu cette idée-là, hein. Si Pierre perd son travail et que Jean lui donne à manger et que Pierre retrouve du travail, que fera Pierre plus tard si Jean perd son travail ? C'est une question au bac SES un jour qui sortira. Peut-être vous êtes jeune et vous dites, oui, mais nous les jeunes, on n'a pas un sou. C'est vrai que la générosité, ce n'est pas que de l'argent, hein. La générosité, ça peut être du temps. Se dire, bon, je passe 7 heures par jour sur Facebook, je vais en donner une pour voir les personnes âgées et les encourager. C'est généreux, ça. Dans notre église, il y a une jeune fille, à 15 ans, elle vient voir les anciens, puis elle dit, bon, moi, j'ai un projet d'évangélisation pour les SDF. C'est mignon, non ? Alors, je lui dis, écoute, je vais en parler aux anciens, puis elle me dit, dans toute la fougue de la jeunesse, mais c'est pas grave si les anciens ne sont pas d'accord, on peut le faire sans eux. Ça, j'ai bien aimé. Je dis, écoute, c'est pas le problème, c'est juste que les anciens... Ils sont quand même là, Dieu les a placés quand même pour donner un cadre, un encouragement, etc. On va pas dire non, probablement, j'espère, Seigneur, je t'en prie. Mais on a besoin d'être dans le coup quand même. Mais cette jeune fille, avec plusieurs jeunes ensuite, une fois par mois, elles étaient dans les rues, elles donnaient des sandwichs à quelques personnes et puis elles parlaient de Jésus. Ça mange pas de pain. Enfin, sauf... Dans la parabole des mines, Jésus reprend celui qui garde pour lui ce qu'il a reçu de Dieu. Il ne faut pas être avare. Il ne faut pas être avare. C'est triste, l'avarice. Et quand on s'entraîne à la générosité, c'est plus facile de le vivre quand on est adulte. C'est un peu l'idée qui nous est laissée au verset 3. C'est l'idée de l'image du nuage gonflé de pluie qui font tomber de la pluie. C'est évident, quoi. Hein. Ben, si vous gonflez votre cœur par certaines habitudes, ben, c'est que on presse le cœur, c'est ça qui tombe. Hein. L'Ecclésiaste dit encore une remarque très profonde, si un arbre tombe à gauche, il restera à gauche. Je sais, hein, ce n'est pas vraiment puissant comme remarque. Hein. Dans notre jardin, ma femme m'a demandé qu'on déplace un cerisier. C'est un vieux cerisier. Enfin, déplacer, en fait, qu'on l'enlève. Je lui dis, bien sûr, pas de problème, chérie, tout ce que tu me demandes. Et alors, c'est très difficile, en fait, de couper un cerisier. Enfin, surtout quand on est seul. Et je lui dis, mais je ne peux pas enlever comme ça, le couper comme ça, parce qu'après, il va rester un... Comment ça s'appelle ? Merci, je suis un urbain, moi. Hein. Donc, une souche, et ça ne va pas être joli. Donc, j'avais trouvé une méthode, c'était de creuser autour de l'arbre, couper les racines, et puis avec un tire-fort, l'abattre. Puis je me suis dit, une fois qu'on l'aura abattu, on pourra le bouger où on veut. Tu parles. Quand il est tombé, il est tombé. Après, il est devenu un banc. Toute l'observation que nous donne l'Ecclésiaste, c'est qu'avec le temps, on ne se bonifie pas nécessairement. C'est ce que je veux dire. Je suis désolé, je vise personne, je ne connais personne ici. Hein. Je repars vite à Lyon de toute façon. Donc, je vise personne. Mais le temps ne fait pas qu'on s'améliore. Deuxième remarque, verset 4. « Qui observe le vent ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. La deuxième remarque, pendant que tu es jeune, c'est prends des risques. Prends des risques. Elle est pas mal cette image, je trouve. Je vous laisse l'absorber, ensuite on reviendra sur le texte, hein. Si vous comparez les villages irlandais et les villages italiens, ils ont le « i » en commun et la météo pour différence. Dans les villages en Italie, le linge est constamment dehors parce qu'il fait toujours beau là-bas. Dans les villages en Irlande, on sait jamais quand est-ce qu'il faut sortir le linge pour le faire sécher parce qu'il pleut tellement souvent. Alors, c'est la grande idée ici, c'est que c'est pas évidemment la question de la météo en Irlande et en Italie, mais c'est que... Il faut prendre des risques parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner dans la providence de Dieu. La vie n'est pas quelque chose qui est si planifié que tout va marcher de façon comme on le veut. À l'époque, semer se faisait en marchant dans les champs et en jetant des graines. C'était un travail à pleurer parce que le moindre vent faisait que toutes les graines partaient. Et sans parler des oiseaux, sans parler des rongeurs. Et c'est pareil pour la pluie. Au moment de la moisson, on ne savait jamais quand est-ce que la pluie pouvait venir. Donc on se disait, est-ce que je moissonne aujourd'hui ? Puis ça ne se faisait pas en une journée à l'époque, bien sûr. Est-ce que je moissonne aujourd'hui ? Mais s'il pleut, ça va tout pourrir. Et donc il y avait toujours la question de savoir et de se dire à quel moment je prends une décision et un risque. Le risque de semer, le risque de moissonner. Moi, je trouve que notre culture occidentale, en ce début du XXe siècle, inculque aux jeunes de jamais risquer quoi que ce soit. Peut-être j'ai tort, hein. Peut-être vous êtes parents. Enfin, moi, je suis parent. Hein. Quand mes enfants m'ont proposé leur plan, j'ai parfois tremblé. Hein. On a prié à genoux. Hein. Mais en même temps, ils ont pris des risques pour Dieu. J'ai trouvé ça fabuleux, extraordinaire. Mais je trouve qu'on décourage le risque dans notre civilisation aujourd'hui. La sécurité, sécurité. Je ne vais pas passer cet examen des fois que je le raterai. Je ne vais pas commencer cette entreprise des fois qu'elle ferait faillite. Je ne vais pas la demander en mariage, des fois qu'elle refuserait. Je ne vais pas passer du temps avec lui, des fois qu'il ne m'aimerait pas. Je ne vais pas faire un voyage avec portes ouvertes, des fois que j'aurais peur. Je ne vais pas faire un camp ou une colonie où, si jamais les animateurs n'étaient pas sympas. Je ne vais pas faire la cuisine à un camp si jamais ça me fatiguait. Mais comme les mouvements de l'embryon dans le ventre d'une mère enceinte sont invisibles, ainsi en est-il de la providence de Dieu. Et je trouve que c'est un... Ecclésiaste nous dit, mais il y a un temps pour l'activité. Et le temps de la jeunesse, c'est le temps des risques, le temps d'explorer les possibilités. Et bien sûr, pour Dieu, avec Dieu, en Dieu, selon Dieu, pas indépendamment de lui. Il y a un livre dont le nom m'échappe maintenant, mais qui a été écrit par des ados pour des ados, et qui, c'est les frères Harris qui l'ont écrit, et qui s'intitule, quelqu'un peut m'aider ? Génération Challenge, merci. Ça doit être le cadeau de Noël si vous avez des ados. Bon, après, vous plaignez pas, ça peut déménager, hein. Dès le matin, sème ta semence. C'est une question de pas de paresse, d'engagement. Troisième remarque. Pendant que tu es jeune, relativise les jours. Nous lisons avec le verset 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que tous les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Réalisez ce que l'Ecclésiaste vient de dire. Si tu es jeune, fonce. Réjouis-toi. C'est quand que votre groupe de jeunes a proposé comme programme cours de jouissance de la vie? Oui, bon, alors... C'est quand la dernière fois qu'en tant que parent, vous avez donné juste 20 euros, peut-être plus, je ne veux pas rentrer dans les détails, pour dire au moment des soldes à votre enfant, profite et remercie Dieu de ce cadeau. Prendre un concert en intégrant le bonheur des arts que Dieu nous laisse pour profiter de la musique. Et quand la musique est bonne, quand elle triche pas. Quand est-ce que l'on a encouragé un jeune à prendre un bon kebab? Bref. En fait, l'instruction de l'Ecclésiaste, c'est de saisir à bras le corps les joies légitimes de la vie parce que vient le temps où ce ne sera pas si facile. Parce qu'il y aura des temps où on échouera au permis de conduire, au brevet, au bac, à un concours. Parce qu'il y a des moments où il y aura des chagrins d'amour, des craintes, des maladies, des déceptions, des deuils, des jours nombreux. J'ai le privilège d'avoir un mentor en la personne d'Alain Stamp. Et une des histoires qui m'a frappé, c'est qu'il était tout jeune marié, commençait un travail missionnaire, et il était à un camp avec Ralph Chalice, un homme de Dieu maintenant disparu auprès du Seigneur, et il parlait, Ralph Chalice, de la souffrance. Et à l'instant, tout jeune marié qu'il était, vient voir Ralph et il dit, mais je vois pas de quoi tu parles, hein. Pour moi tout baigne. Je rentre dans le ministère, je suis marié à une femme que j'aime, c'est la vie, c'est de la balle. Enfin, il n'a pas dit ça, ça n'existait pas comme expression à l'époque. C'est tout baigne, quoi. Et Ralph Chalice l'a regardé avec un sourire. Tu verras. C'est terrible, les gens d'expérience. Hein. Et oui, sa femme est tombée malade avec une sclérose en plaques qu'il ne l'a pas lâchée pendant 20 ans. Ce frère a vécu des choses dans vraiment un creuset où Dieu ne l'a jamais abandonné, mais... C'était vraiment, vraiment difficile. Et si j'en parle, c'est parce que c'est public, hein, sinon je n'en parlerai pas. Et donc, parce qu'on ne sait pas ce que les jours seront, c'est vraiment le moment de sourire à toutes les choses bonnes que Dieu nous accorde sous le soleil. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. C'est vraiment dans la jeunesse qu'on a cette liberté qu'on n'a plus. C'est vraiment dans la jeunesse qu'on a cette insouciance de refaire le monde, de discuter de la vie, de la mort, du ministère, de l'implantation d'église, de changer la Belgique pour Christ. C'est vraiment à ce moment-là. Après, c'est difficile. Je me souviens quand je me suis converti, c'était en juillet 84, et c'était, le contraste était extrême, hein, parce que je n'ai pas eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Et avec les jeunes que je venais de côtoyer, qui m'avaient parlé de Jésus, je devais leur faire visiter la ville de Lyon. J'avais mon permis de conduire juste là. Et donc, ils étaient dans la voiture. Et moi, j'étais tout sourire parce que Christ venait d'entrer dans mon cœur et je ne savais pas encore trop ce que ça voulait dire, mais j'étais joyeux. Donc, j'étais en voiture et puis ils étaient en train de discuter sport et tout ça. Et puis, je leur ai dit, ça vous ennuie si on chantait un chant ? Vous savez, les chants mignons que les chrétiens chantent, hein, les chants de louange. Eh bien, moi, je voulais les chanter, quoi. Alors, ils se sont regardés, qu'est-ce que vous voulez dire, hein, quand... Ils n'allaient pas dire non, on préfère parler de sport. Donc, ils ont chanté avec moi, puis je ne comprenais pas, c'était pas aussi enthousiaste que pendant un temps de louange. Bon, et puis, c'était génial. Quelques minutes passent, ils reprennent leur conversation, et puis je leur dis, on peut chanter un autre chant. 10 ans plus tard, j'étais dans le ministère, nous allions à une retraite avec des anciens de l'église et il y avait un jeune converti handicapé qui était avec nous dans la voiture et il était tout au fond parce que nous, les anciens, nous avions des choses importantes à parler pour changer la France et nous parlions ministère. Et j'ai entendu une voix tout au fond qui disait « On chante ?» Et je devais confesser vraiment que ça ne faisait plus partie de mes priorités. Mon cœur avait besoin d'être allumé. Que la passion, la fougue peut être totalement brisée aussi par plein de choses que j'avais encore à comprendre et plein de péchés qu'il fallait encore que je gère et tout ça et tout ça. Mais que cette passion-là, elle avait besoin d'être ranimée. Et que parfois l'âge ne permet pas permet trop de changements dans ce sens-là. Réjouis-toi à bras le corps. Mais, verset 9, sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Et oui, il ne s'agit pas d'être hédoniste pour être hédoniste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de s'enivrer tout un week-end et de vomir dans un seau. Ça n'a pas de sens. Dieu te fera venir en jugement. Dieu jugera cela. Ça n'a pas de sens. Par contre, prendre un verre en bonne compagnie, si tu as l'âge, ça c'est chouette. Si tu as honorablement courtisé un jeune homme, une jeune femme, si tu as honorablement passé du temps pour la découvrir, pour l'honorer, la servir, etc. C'est formidable. Si tu l'as utilisé, Dieu jugera. Alors, le problème du péché, quand on est jeune, c'est qu'il est... quand on est jeune, qu'est-ce que je dis? Quand on est humain, c'est qu'il est très fréquent et un peu omniprésent, quoi. C'est dans notre nature. Et il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. D'un côté, l'ignorer en disant, de toute façon, c'est peine perdue, je suis pécheur. Et puis, d'un autre, c'est de sombrer dans la désespérance. On vit dans un monde qui est souillé et nos cœurs sont mauvais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de grâce, c'est pour ça qu'on a besoin de pardon et c'est pour ça que on reçoit cette absolution, qu'on peut vivre en Christ. Et Dieu va faire en sorte que l'on puisse progresser et parfois chuter et parfois faire comme Pierre, se repentir. Et puis ensuite continuer, demander à des frères, des sœurs qui nous encouragent, créer un mouvement vers... Et une pratique régulière de la repentance, sachant que profiter de la vie ne peut se faire que si l'on a conscience que Dieu regarde. Dieu regarde. Et je ne parle vraiment pas là de manière péremptoire, d'exhortation. Je suis, hélas, trop souvent à mon goût, à genoux, pour reconnaître encore et encore des péchés qui sont difficiles à gérer. Difficiles à gérer. Mais Dieu ne change pas. Dans sa sainteté, il met le doigt encore et encore sur les choses qu'il attend doivent changer en nous. Chapitre 12, verset 1. Ancre-toi en Dieu, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est vraiment pendant ce temps de jeunesse que les grands engagements pour Christ se font. Vous connaissez cette histoire que Jésus donne à plusieurs reprises, dans l'évangile, sur la maison sur le sable. Hein. Si tu veux construire une... C'est ça. J'ai fait des colonies après, hein, mais voilà. Et c'est vrai que moi je vois, il y a des jeunes, hein, ils ont construit sur le sable, et parfois en rationalisant. Ils se sont engagés dans des choses, dans des projets qui n'étaient pas bons, ni professionnels, ni sentimentaux, ni etc., en pensant que Dieu allait les aider un jour, hein. Non, c'est quand Dieu a déjà dit les choses, ça ne sert à rien de penser que ça va changer, hein, ça ne changera pas. Dieu ne change pas, il a donné déjà des idées dans sa parole. Et quand l'Ecclésiaste dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse », c'est quelqu'un, souvenez-vous, qui a tout goûté et qui a vu l'amertume du péché et qui supplie les plus jeunes, mais franchement, garde en tête ce Créateur qui n'est pas simplement créateur, mais législateur et rédempteur. En fait, ce créateur, il a fait des courses. Ce rédempteur, il a fait des courses. Il est passé dans la vie, puis il a pris des hommes et des femmes. Jésus a pris tout ça dans chacun d'entre nous, peut-être si nous sommes en Christ. Il les a pris dans son caddie, il est allé à la caisse, et Dieu le Père lui a dit, ça va coûter cher, tu sais. Un prix infini. Jésus, il a dit, moi, je vais payer. Et quand il a payé à la croix, lorsqu'il a reçu le jugement que nous méritions, alors nous sommes maintenant dans son caddie, il nous a rachetés, nous lui appartenons. Quand l'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur, c'est vraiment, pendant les jours de la jeunesse, c'est vraiment pour qu'il y ait des engagements fermes, des engagements de principe de vie qui s'ancrent dans l'Écriture. La foi, ce n'est pas simplement la confiance qui nous sauve du péché, c'est aussi la confiance que ce que Dieu dit est meilleur que ce que je ressens, est plus juste que ce que j'aimerais. Je vais laisser la parole de Dieu m'informer de ce que je dois vivre. Souviens-toi, tiens compte de ton Créateur, prends en compte les qualités, la sainteté, sa force, sa majesté, son orientation. Timothée a fait partie de ces privilégiés qui ont une mère et une grand-mère qui lui ont donné ces notions et Dieu l'a utilisé. On raconte l'histoire triste d'un satellite. Bon, en même temps, ça n'a pas d'émotion un satellite. Donc j'imagine qu'on peut en l'entendre sans pleurer. Qui a raté sa cible. Et quand les ingénieurs ont essayé de comprendre pourquoi le satellite s'était dévié de sa cible des millions, milliers ou centaines de milliers de kilomètres plus loin, je ne sais pas, ils ont réalisé qu'il y avait eu dans la programmation une erreur entre un point-virgule et une virgule. L'informatique est à ce point sensible à la ponctuation et à la grammaire. Et ça a complètement bousillé le programme et le satellite est allé dans une mauvaise direction. Mais au départ, c'était quasiment insensible. Et je me dis, c'est vraiment souvent, quand on est jeune, qu'on prend des décisions fondamentales. Qui on va marier? Quel profil on va marier? Quel engagement de chrétien dans l'Église je vais prendre? C'est dans ces temps-là que l'on s'engage. Et enfin, pense au vieillissement. Alors, je vais lire la suite de ce texte, mais je voudrais vous prévenir et mettre en garde. Lorsque j'ai prêché ce texte dans un contexte particulier, il y a une personne plus âgée qui est venue me voir, qui m'a dit « j'ai pas aimé ce que tu as dit ». Et je l'ai regardé en disant « je suis vraiment désolé, c'était dans la Bible ». Dans le sens où l'expression qui est évoquée ici, est une expression assez poétique et jolie, en fait, du vieillissement, mais ce n'est pas très agréable. Alors, je vais le lire, puis je vais le lire en pensant que c'est un homme âgé, je ne parle pas encore de moi, là, mais c'est un homme âgé, l'Ecclésiaste, qui en parle avec toute l'expérience qui est la sienne. Je ne voudrais vraiment pas offenser quiconque. Je voudrais juste lire ce texte et le donner un petit peu le sens. Parce que normalement, une prédication, c'est à peu près ça. On lit le texte et on donne le sens pour qu'on puisse le vivre. Et chapitre 12, donc à partir du verset 1, milieu du verset 1, on va lire même après avec le verset 1. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses, ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule et l'on se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent, l'on craint ce qui est élevé, l'on a des terreurs en chemin, l'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante, la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Une cartouche, une vie, une mort, un jugement. Après le corps. Avant que ce moment n'arrive, avant que la vieillesse empêche de profiter de la vie, s'obscurcissent le soleil et la lumière, on perd contraste au goût, à la saveur des choses qui changent, plus de sel, plus de sucre n'est repérable, ni le soleil ni la lune deviennent visibles. La pluie s'arrête, les nuages reviennent, soit pour indiquer que les ennuis de santé s'accumulent et qu'il n'y a plus d'accalmie, soit pour souligner que dès qu'on a fini d'aller aux toilettes, il faut qu'on y retourne. Verset 3, c'est quel commencement, hein ? Verset 3, ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, probablement une indication des bras qui, avant, étaient capables de se battre, de se défendre, et maintenant, elles ne peuvent même plus tenir un crayon. William Vance, créateur de la BD 13, vient de déclarer, ou il a déclaré il y a 2 ans, qu'il s'arrêtait. Il arrêtait sa série mythique à cause de la maladie de Parkinson. Il y a quelque temps, j'ai eu le désir de faire du Krav Maga. C'est un art martial. On a des lubies parfois comme ça. Mais je sais que c'est maintenant. Si je veux vraiment le faire, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même pas si j'aurai le temps. Mais je sais que c'est maintenant. Hein. Parce qu'après, les portes... Enfin, voilà, c'est... Et puis en plus, les jambes, elles se courbent. Elles étaient vaillantes et capables de courir, de porter, de transporter. Maintenant, quand on veut saisir le Nutella en haut, mais il faut prendre une chaise, on s'est raccourci. Celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. C'est une indication des dents qui sont en grève ou plutôt qui ont pris leur retraite. En fait, elles sont disparues. Elles sont parties avant le reste. Et alors, comment manger un bon steak quand on n'a pas de quoi mâcher? Ou pire, lorsqu'il n'en reste que 2 et qu'elles sont des 2 côtés. On ne voit plus trop clairement, la vue s'assombrit. Certains d'entre nous, on a commencé ce chemin, on porte des lunettes, et qu'est-ce que je remercie Dieu pour les opticiens. C'est maintenant qu'il faut aller rendre visite au musée pour pouvoir observer l'art et la beauté. Après, c'est très difficile de voir. Les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Comme il n'y a plus de dents, les lèvres ne font pas simplement que se poser l'une sur l'autre, elles s'écrasent l'une contre l'autre. Warren Wiersbe, c'est pas moi qui ai dit cette chose-là. Warren Wiersbe, qui est un pasteur remarquable, vraiment un homme de Dieu, maintenant âgé, il racontait tout en parlant de ce texte, il disait « Lorsque je me couche, ma femme met des boules quies et moi j'enlève tous les appareils électroniques, de quoi écouter, de quoi, enfin, je ne vais pas dire tout ce qu'il dit, enfin, les dents, les lunettes et tout ça. Et ce n'est pas une réalité. Petit à petit, on arrive à un point où ça devient difficile. On se lève au chant de l'oiseau. D'ailleurs, peut-être sa femme met des boules quies parce qu'elle ne veut plus entendre les oiseaux. Mais malheureusement, quand on a pris sa retraite, qu'on peut enfin dormir, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'usine tous les matins, eh ben paf, on est incapable de dormir. C'est pas un coup du sort, ça? Non, non, c'est pas un coup du sort. On ne profite même plus des filles du champ, littéralement. C'est comme ça que l'expression hébreu est. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à saisir le brouhaha. On n'arrive pas à apprécier même la musique parce que ça devient comme un brouhaha. Parfois, j'entends les personnes âgées qui disent « Écoutez, le temps de louange, c'est difficile. C'est trop. C'est trop. C'est maintenant qu'il faut aller à Jazz à Vienne. C'est maintenant qu'il faut passer un bon CD de musique. Après, ce sera plus difficile de l'entendre. » On craint ce qui est élevé. On a des terreurs en chemin. On a peur de sortir. Si un ami téléphone pour proposer d'aller manger quelque chose le soir à 18h, ouh là là, mais c'est tard. C'est dangereux. Et si je me perds? L'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante. Les fleurs de l'amandier sont blanches. Une belle image pour décrire la coloration des cheveux, qui est aussi une couronne de gloire. C'est une couronne de gloire. Le moindre fardeau qu'on transportait gaillardement devient difficile à porter. Certains lient la sauterelle à la capre, mais c'est un petit peu osé. La capre n'a plus d'effet. Le Talmud voit dans la capre un aphrodisiaque. On dit que la libido féminine est à son apogée à 30 ans. Chez les hommes, c'est à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mais le jour vient où même la capre n'aura plus d'effet. Et tous les plaisirs légitimes de la vie que Dieu donne dans le cadre du mariage ne sont plus ou plus pareils. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Ce n'est pas que sa demeure est éternelle parce que l'Ecclésiaste ne croirait pas en la vie éternelle. Il le dit un peu plus tard, l'esprit retourne à Dieu. Mais toute l'observation de l'Ecclésiaste, vous vous souvenez, l'une des clés de lecture de l'Ecclésiaste, c'est « sous le soleil ». Il parle de la vie telle qu'elle est sous le soleil, dans sa difficulté, dans la situation qui est là. C'est pourquoi, avant que ce moment de la mort qui est ici illustré avec comme une sorte de guirlande qui brise comme un vase qui se casse, avant que ce moment arrive, c'est le moment que la vie compte. L'espérance de la résurrection est autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Daniel chapitre 12, verset 2, Matthieu chapitre 25, verset 46. La Bible dit clairement que nous n'avons qu'une seule vie, après quoi vient le jugement, et ce jugement nous placera dans la présence de Dieu ou dans l'absence de Dieu. Et on ne va pas dans la présence de Dieu parce qu'on le mérite, vous savez pourquoi? Parce que personne ne le mérite. Vouloir accéder au paradis en faisant des œuvres bonnes, c'est comme quelqu'un qui voudrait aller sur la Lune en empilant des chaises. C'est disproportionné. Ça ne marchera jamais. L'enfer et le paradis ne sont que des destinations, ce ne sont pas des récompenses. Et c'est pourquoi l'un des premiers fondements, quand il dit de craindre Dieu, de souvenir de ton Créateur, c'est vraiment de réaliser que généralement, à la fin de sa vie, on a pris déjà de forts engagements spirituels qui vont demeurer. C'est rare les gens qui se convertissent à la fin de leur vie. Ça arrive, c'est une joie, mais c'est rare. C'est pendant qu'on est jeune qu'il faut vraiment réfléchir à ces questions. Après, la mort peut nous emporter si vite et nous endurcir dans la souffrance et la violence que ça peut représenter. C'est la beauté de l'Évangile, je trouve. C'est que le regard que porte l'Ecclésiaste, c'est un regard qui est éminemment solennel et triste sur l'existence, quelque part, mais en même temps plein de bon sens sur certains aspects. Et l'Évangile nous permet de réaliser que dans la vanité de l'existence, il y a quelque chose qui va bien au-delà. Heureusement, nous passerons l'éternité avec Jésus, dans une terre renouvelée. Heureusement, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée. Heureusement, Jésus nous prépare une place et nous serons avec lui. Ce temps sur terre n'est qu'un temps, une cartouche. Dans quelle direction je vais l'orienter? Quelle cible je vais lui donner? Quelle perspective je vais laisser? Quelle phrase caractérisera ma vie? Je crois vraiment qu'il faut qu'une nouvelle naissance, déjà pour ceux qui ne sont pas en Christ, puisse percuter nos cœurs. Il y a qu'à un moment donné de réaliser que sans un Dieu transcendant qui dépasse l'existence, notre vie n'a aucun sens. Et la bonne nouvelle, et je vais y venir, ce qu'il nous faut maintenant avancer, pendant que tu es lucide, prends la distance sur l'existence. Regardez le verset 8, l'une des grandes conclusions, l'un des grands thèmes que nous laisse l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Tout est vanité ». Une expression que l'on peut traduire de façon différente, « Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien ». Ou bien encore de la fumée, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Ou futilité complète, tout n'est que futilité. Tout ce que nous croyons pouvoir nous rassasier nous laisse assoiffés. C'est pas l'existence de la vie, ça? Tous, on se dit, ah, quand j'aurai ça, quand je vivrai ça, quand je pourrai en être là, on y est. Et alors? On a mangé un bon kebab, il faut en manger un le lendemain. L'expérience de la vie est frustrante. D'ailleurs, quand il conclut cela, pendant qu'on est jeune, il faut garder cette lucidité et cette distance, parce que je remarque que très souvent, nous attachons notre identité à ce que nous faisons, n'est-ce pas? Par exemple, vous posez la question à quelqu'un, qui es-tu? C'est une question rigolote, qui es-tu? Vous entraînerez un jour, vous allez voir votre voisin, vous êtes qui vous? Enfin bon, et vous écoutez la réponse, et souvent les gens disent, je suis ingénieur, mais non, ça c'est ta profession, ou je suis marié, non, ça c'est sa situation conjugale, ou bien je suis belge, mais ça c'est ton état civil, qui es-tu? Et souvent, on ne sait pas vraiment définir notre identité en dehors, soit des choses que l'on fait, soit de choses tellement terrestres. Et quand Salomon réalise que la conclusion de toute une vie, c'est vanité des vanités, tout est vanité, c'est que ce que nous sommes n'est pas simplement ce que nous sommes de façon terrestre. Rien sur cette terre ne donnera la plénitude. Et je voudrais remarquer avec combien la personne de Christ change la donne. Jean 6, 35 nous dit que Jésus est le pain de vie, un pain qui rassasie. Salomon a essayé de faire ripaille tous les jours, insatisfait, vanité. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, il est dit de lui qu'il est la lumière. Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Salomon a essayé de comprendre les choses et d'avoir une lumière intellectuelle sur la vie. Il conclut, vanité des vanités. Jésus dit qu'il est la porte. Il est la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus dit qu'il est celui qui donne l'abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est lui qui donne un sens à la vie au-delà de la mort. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection. Il le dit à ceux qui l'entendent alors qu'il va ressusciter Lazare. Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Lui donne du sens à tout ce qui n'a pas de sens dans notre existence. Et Jésus souligne en Jean 8, 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ce qui condamne à l'éternité en enfer, ce n'est pas les péchés. Nous sommes tous pécheurs. Et je le sais trop, hein, je connais mon cœur. Peut-être les belles sont mieux, hein, mais moi je sais ce qu'il y a dans moi. Ce qui condamne, c'est de réaliser que Dieu a fait le déplacement du ciel pour sauver, pour pardonner, et de refuser cette simplicité de venir à lui seul devant la croix en disant « Je me suis planté, pardonne-moi, je crois, je te donne ma vie, je veux marcher avec toi. » Il faut avancer. Je vous propose d'arriver au dernier point avec le verset 13. On va sauter une section. Écoutons la conclusion de tout le discours. Vous arrivez enfin à la fin du week-end. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. À la fin de sa vie, Salomon n'a pratiquement que des échecs par rapport à ce qu'il croyait au départ de sa vie. Et sa grande conclusion, finalement, que ce qui va donner du sens à notre existence, ce qui va donner de la texture à nos œuvres, ce qui va donner un cadre à nos, moral à nos actions, c'est cette notion, cette compréhension que craindre Dieu, c'est le point de départ. De craindre Dieu en sorte que l'on croit que ce qu'il dit à un est un engagement pour ma vie. Est-ce que vous croyez en Dieu au point d'avoir confiance dans son salut? Et est-ce que vous croyez en Dieu au point d'avoir confiance que ce qu'il dit est juste et vrai pour vous? Je remarque que dans ma vie, ce n'est pas toujours le cas en fait. Je remarque qu'il y a des tensions entre ce que je ressens et ce que la Bible dit, et que j'ai parfois envie de faire ce que je ressens. Et hélas, je dois l'avouer, parfois de le faire. Il y a des différences entre ce que la Bible dit et ce que d'autres me disent, et cette tension n'est pas facile à gérer. Et parfois, je dois avouer que j'ai à me repentir d'avoir écouté quelqu'un plutôt que l'Écriture. Et la grande idée que nous laisse, c'est que celui qui va être inamovible dans la vie, il va prendre des racines profondes dans la personne même de Dieu. Craindre Dieu, c'est vraiment une manière à la manière de l'Ancien Testament, de dire Jean 3,16, vraiment. Alors on a peut-être l'impression en lisant ce verset que Dieu fera passer toute œuvre en jugement comme s'il y avait une sorte de balance, hein, c'est-à-dire que si jamais je fais le bien, je vais au paradis, si jamais je fais le mal, je vais en enfer. C'est pas du tout ça, hein. La Bible dit en Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est tellement pourri à l'intérieur qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour obtenir le salut. C'est tout Dieu qui livre, cache le salut. Ça vient entièrement de lui et par lui. Alors comment comprendre que Dieu fera passer toute œuvre en jugement? Eh bien, quelque part, par rapport au péché, par rapport à la culpabilité du péché, le jugement, il est soit porté par moi si je vais en enfer, ce que je ne crois pas le cas, soit il est porté par Christ qui a payé à la croix. Mais, pour nous qui sommes en Christ, notre vie compte. La Bible parle de plusieurs jugements et tous ne sont pas identiques. Le jugement de l'enfer que nous trouvons en Apocalypse chapitre 20 est le jugement le plus terrible et le plus solennel que l'on puisse trouver de toute l'Écriture. Parce que de ce jugement-là, on ne va que regarder des œuvres qui sont mauvaises et toutes les personnes jugées sont éloignées de Dieu. Toutefois, il y a un jugement qui concerne les enfants de Dieu et que la Bible décrit sous le vocable de « tribunal de Christ ». Et la Bible dit que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Si vous ne croyez pas, vous relisez le Nouveau Testament, ça s'y trouve. Notamment en Romains chapitre 14 et en 2 Corinthiens chapitre 5. Et dans ce texte de Corinthiens, il nous est dit que nos œuvres seront évaluées pour en reconnaître la texture, la valeur. Pas la question du péché, ça a été réglé à la croix. Mais la question de la vanité de ce que ça aura été. Juste pour nous encourager, je voudrais lire ce texte et puis je crois que ça fait écho avec ce que Ecclésias nous dit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. En sorte que notre vie compte vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir pasteur, évangéliste ou missionnaire. Ce n'est pas ça que ça veut dire, même si ce serait formidable s'il y en avait deux fois plus. Hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que notre vie compte. La manière dont nous vivons quotidiennement avec Dieu, ça compte. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'on prie dans notre chambre seul, alors que la chambre est fermée à clé, Dieu le voit et il met dans notre coffre-fort un bonus. Je vais l'utiliser comme ça l'expression. Lorsque nous soutenons un missionnaire, lorsque nous donnons de l'argent pour des choses qui sont utiles pour l'œuvre de Dieu, nous mettons quelque chose dans un coffre-fort, nous mettons où Dieu le met. Et ce qui se passe, c'est que si jamais nous sommes persécutés à cause de Christ, Dieu le voit. Et il ne perd pas sa récompense, celui qui tient fidèlement au temps de la persécution. C'est Jésus qui le dit. Et Dieu le met dans un coffre. Et au moment de notre mort, nous serons auprès du Seigneur. Et l'un des grands événements qui va avoir lieu, c'est la résurrection. Et le tribunal de Christ, c'est le moment où les chrétiens seront récompensés. Vous imaginez ça? Comment est-ce que Jésus peut récompenser des hommes comme nous? Ça, franchement, ça m'étonne. La Bible parle en des termes assez surprenants. Elle parle de gens qui vont être responsables de 5 villes ou de 10 villes ou de 1 ville. Peut-être ça ne vous intéresse pas, peut-être vous ne voulez pas être maire, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que Jésus en parle. La Bible parle de 5 couronnes qui sont mentionnées tout au long du Nouveau Testament. Il y a la couronne des anciens qui ont été fidèles. Il y a la couronne de ceux qui ont été persécutés pour Christ. Il y a la couronne de ceux qui ont gagné des âmes à Christ. Il y a la couronne de ceux qui ont retenu leur chair en soumission, parce que c'est difficile de lutter contre sa chair. Il y a 5 couronnes qui sont mentionnées, et il est possible qu'au moment de ce jugement qui concerne les chrétiens, Jésus vienne devant tous ses enfants et il leur donne des couronnes. Ça va faire style hein, pendant le paradis, se balader avec des couronnes. En même temps, en Apocalypse chapitre 1 ou 2, il nous est dit que les 24 anciens qui peut-être représentent l'Église, les 24 anciens prennent leur couronne et qu'est-ce qu'ils en font? Ils les jettent aux pieds de Christ. Je dis peut-être que la première activité que l'on fera quand on sera dans ce temps-là avec Dieu, c'est que Jésus lui dit, mais bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tiens voici une couronne. Et nous on va dire, oh non, Seigneur, pas de couronne pour moi, on la va, tiens Seigneur c'est pour toi. Et Jésus dit, non, voici ta couronne. Et nous on va dire, c'est le jeu des couronnes. Premier jeu de l'éternité. Je ne sais pas vraiment si ça va se passer comme ça. Hein, je sais pas vraiment. Et quelque part, ce que je veux souligner, et je vais terminer rapidement maintenant, ce que je veux souligner, c'est que pendant qu'on est en vie, on peut faire une différence autour de nous, dans l'Église. Et que c'est pendant qu'on est jeune particulièrement qu'on peut saisir les opportunités d'être un disciple engagé pour Christ, tout feu, tout flamme pour lui, malgré toutes les difficultés que cela peut représenter. On prie ? Dieu et Père, je ne sais pas dans cette salle quelles sont les situations de cœur que toi tu connais. Il y a, je suppose, des hommes, des femmes qui réfléchissent à la question de la foi, et je prie pour que tu les accompagnes dans leur réflexion, que tu te montres à eux, qu'ils puissent lire un évangile et réaliser l'appel à la foi et la repentance qui se trouvent dans l'Évangile. Seigneur, il y a peut-être ici des chrétiens découragés parce qu'ils en ont assez de lutter dans des souffrances, dans des frustrations, dans des maladies ou peut-être même dans des péchés. Et je veux vraiment prier que pour nous tous, tu accordes une grâce toute particulière, un encouragement tout à fait particulier. Père, il y a peut-être aussi des jeunes que tu veux appeler à davantage de consécration, à davantage de fidélité, à davantage de décisions qui prennent en compte la dimension d'une relation avec toi. Je veux jouir de la vie sous ton regard. Et je prie que tu les fortifies en cela. Tu les bénisses dans leurs projets. Tu les encourages. Je prie qu'une génération d'hommes et de femmes naissent passionnés pour Christ, désireux de changer le monde pour Christ. Seigneur, aie pitié de nous, nous qui sommes tellement faibles, tellement fréquemment, facilement faire face au vent de façon sans trop de force. Viens à notre secours, garde-nous du malin, purifie-nous. Et à toi l'honneur, majesté et le règne au siècle des siècles.